Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, oui, René Hébert, elle qui est agente d'information et de liaison de l'organisme L'Arc-en-Ciel, nous parle d'un guide qui, vous l'entendrez, est bien particulier, bourré d'informations sur le trouble du spectre de l'autisme et qui se destine aux parents, également aux intervenants de la région Chaudière-Appalaches. On la joindra en deuxième partie d'émission, d'ailleurs. Elle est dans ce coin-là, donc on se déplace un petit peu. Et puis, d'abord, vous dire que lorsque j'ai su, ça c'était peut-être au début de l'été, lorsque j'ai su que Nicole Bordelot sortait un nouveau livre à la fin de l'été, d'ailleurs son troisième, intitulé « L'art de se réinventer », j'ai voulu la recevoir tout de suite, parce qu'on se connaît un tout petit peu, mais aussi parce que je l'admire et elle m'inspire beaucoup, cette femme. Et puis, en recevant son livre en service de presse, hein, vous savez, comme animatrice, on a parfois ce privilège. Je l'ai feuilleté, comme on fait parfois avec un nouveau bouquin rapidement, en se disant, bon, je vais l'attaquer un petit peu plus tard. Et je suis tombée sur ce passage, page 189, tout à fait au hasard, qui disait « Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin. » Évidemment, bah, ça m'a un petit peu ébranlée parce que c'est exactement la réponse que j'attendais et ce que je cherchais sans avoir d'indice. Et c'est arrivé par l'entremise de ce bouquin. On parle à l'auteur dans quelques instants. C'est quand même rigolo, Nicole Bordelot, hein?
Marianne, sur 336 pages, je viens de te confier que c'est vraiment ma réflexion et ma citation préférée. C'est celle qui me guide depuis de nombreuses années, qui me permet de transcender, traverser les vagues de l'inconfort, du changement.
Mais des phrases comme ça, des passages un peu confrontants, un peu bouleversants, qui parlent beaucoup. Il y en a une panoplie dans ce livre-là, le troisième, votre troisième bouquin. Et d'ailleurs, une phrase, il faut que je la trouve, à la page 102. Ça m'a tellement ébranlée que j'ai réagi fort. La personne qui est avec moi me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? » Ça y va comme suit, je l'ai. « Durant de nombreuses années, si l'on voulait littéralement me faire monter sur mes grands chevaux, on n'avait qu'à me dire de lâcher prise. » C'est moi qui aurais pu écrire ça, Nicole. Parce que lorsqu'on me dit « lâche prise », j'ai envie, je me crispe. Lâcher prise, c'est important, j'imagine, pour se réinventer, pour amorcer une transformation.
Oui, c'est vrai, mais il faut souligner et spécifier surtout ce que veut dire le lâcher prise. Mm-hmm. Parce que c'est tellement galvaudé. Et on va avoir tendance souvent à donner ce conseil-là à n'importe qui, à l'appliquer à toutes les sauces. Ce qui fait que ça veut dire à peu près la même chose comme, bon, respire par le nez, ou toutes ces phrases-là qui viennent nous dire d'abandonner, de baisser les bras, de se résigner. Non, ton rêve ne se réalisera pas. Mais lâcher prise, ce n'est pas ça. En tout cas, pas pour moi, dans ma vision à moi, Marianne, des choses. Et ça m'a pris du temps, je le dis dans le livre, avant de vraiment comprendre ce que ça signifie, lâcher prise. Parce que pour moi, ça voulait dire abandonne, baisse les bras. Et un jour, j'ai réalisé dans un atelier de méditation où j'avais tellement de résistance et mes pensées constamment venaient là, me mitrailler de mille et une inquiétudes. Et à un moment donné, l'instructeur a dit « Lâchez prise. Laissez aller ce qui vous fait souffrir. » Et là, j'ai fait comme « Ah, ça, c'est une vision du lâcher prise que je n'avais jamais, jamais entrevue. Je croyais qu'il fallait que je lâche prise sur ce que je désire, sur ce que je rêve, sur ce qui m'inspire et ce vers quoi j'aspire. Mais non, il y a cette portion du lâcher prise, de laisser aller ce qui nous inquiète, ce qui nous angoisse, de lâcher prise sur les souffrances qu'on se crée soi-même. Et là, c'est ouvert une porte à moi. J'ai vu que je devais réinventer ma vision du lâcher prise.
Mais bien sûr, ça fait écho à les multiples références que vous avez dans le livre, qui est, et je le disais tout à l'heure lors de votre arrivée, qui est magnifique.
Merci.
Le livre que vous portez depuis longtemps, bourré de petites citations. Certaines viennent de vous, Nicole, d'autres de d'autres penseurs, philosophes qui, j'imagine, vous inspirent. Et ça me ramène tout ça et vous ramenez le lecteur au moment présent, au pouvoir du moment présent et à quel point ça peut nous ramener à l'essentiel et nous éloigner de cette souffrance-là qui souvent, on ne peut pas changer au reste, à l'avenir, au passé. On ne peut rien changer à ça. Lorsqu'on se ramène au moment présent, c'est là que ça se passe. C'est le seul moment qui compte et qui existe.
Et la vie se réinvente continuellement autour de nous. Moi, j'ai longtemps cherché à me réinventer à l'extérieur de moi, Marianne. J'ai longtemps cherché à changer mon apparence, changer d'emploi, changer de relation, me dire « Oh, ben, je vais voyager, je vais changer d'horizon, de paysage. » Mais tout à l'extérieur peut changer. Mais si nous, à l'intérieur, nous conservons constamment les mêmes certitudes, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, partout où nous allons, nous sommes. Alors, je le dis bien dans le livre, là où tu vas, tu es. Alors, la transformation, le changement doit prendre naissance à l'intérieur. Et se réinventer, pour moi, c'est cela. Il faut que ce soit au moment présent. Ce qui est passé, est passé. On ne peut pas réparer le passé. Mm-hmm. Même si votre passé est parmi les plus douloureux, c'est triste, mais c'est ainsi. Ça ne peut pas être réparé. Le futur, on n'a aucune certitude qu'il viendra et comment il viendra. Mais en ce moment-ci, vous et moi, toi et moi, on a énormément de pouvoir de se réinventer notre façon de penser, notre façon de voir les choses, de considérer les gens, les événements. Souvent, on entend dans le milieu de la santé « gérer votre stress
mm-hmm. ».
Moi, je trouve que c'est un petit peu...
Vague, peut-être?
Non seulement c'est vague, mais c'est trompeur, parce qu'on ne peut pas gérer le stress. Il est à l'extérieur de nous. On ne peut que gérer sa réaction au stress.
Ouais.
Et se réinventer, c'est ça, de voir comment puis-je réagir différemment devant cette personne ou cette situation.
Vous abordez, Nicole, l'art de se réinventer par plusieurs volets. Il y a plusieurs chapitres à votre livre. La patience.
La patience.
Le pardon, la confiance en soi. Quoi d'autre aussi?
L'espoir. La joie.
On commence par quoi? Parce que l'éléphant, il peut paraître un petit peu gros là, à mâchouiller là, d'une seule fois, d'une seule bouchée. Si l'on veut vraiment entamer cette transformation-là en nous, quelle est la première étape?
Peut-être que ma réponse va vous surprendre, mais c'est une question que je pose fréquemment aux gens et je réalise que parfois, on n'a pas de réponse. Elle est essentielle pour avancer dans la vie, pour vivre le moment présent et pour se réinventer. Quelle est votre plus grande peur? Vous devez être capable de la nommer. Parce que disons que demain, vous voulez partir une entreprise et qu'inconsciemment, votre grande peur, c'est celle du succès. Si vous êtes incapable de démasquer cette peur-là, constamment, vous serez face à des obstacles. Alors, aujourd'hui, au moment où on se parle, cette question-là, de se la poser sans vouloir y répondre tout de suite, la laisser respirer, vivre avec, ne pas avoir peur de vivre avec cette question, dire « Ok, moi, ce moment-ci de ma vie, quelle est ma plus grande peur? » Et c'est intéressant parce qu'elle ouvre la porte sur mille et une opportunités que peut-être je gardais fermées. Alors, moi, j'ai souvent pensé que ma plus grande peur, c'était celle de la maladie, puisque j'avais été diagnostiquée avec une maladie chronique. En investiguant plus loin, en méditant, en respirant avec la question, j'ai réalisé que non, la peur de la maladie cachait ma véritable peur. Autre chose. J'ai réalisé que ma plus grande peur, c'était d'être abandonnée si j'étais malade. En découvrant ça, presque instantanément, j'ai ressenti mon pouvoir intérieur venir. Et là, de me questionner, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je pense que c'est vraiment la vérité? Est-ce la réalité? Il y a une énergie de créativité qui nous revient.
Et vous dites d'ailleurs, identifiez votre plus grande peur et allez là.
Oui, oui.
Allez-y, l'affronter. C'est
absolument
là qu'il y a les plus grands apprentissages.
Voilà, et n'attendez pas de ne plus avoir peur pour réaliser vos rêves. Vous allez attendre toute votre vie.
Ouais.
Malgré la peur, avec la peur, avancez, faites un pas. Et c'est pour cela que les autres chapitres donnent, je donne des exercices vraiment pratico-pratiques qui peuvent nous aider justement à faire des pas, à prendre de très beaux risques. Il y a de très beaux risques à prendre dans notre vie. Le risque d'être authentique, le risque d'aimer, d'aller au bout de sa capacité d'aimer, de dire la vérité. Alors, tous ces risques-là font qu'on se réinvente.
Et ce sont des exercices très, très concrets, faciles à faire, même au boulot, même en public,
oui.
dans le métro, de petits exercices de respiration, par contre, parce que, et ça, vous le rappelez souvent, tout part de la respiration. Souvent, pourtant, c'est la base de notre vie, la vitalité, mais on respire soit mal ou parfois même pas, on oublie.
Oui, parce que personne ne nous l'a appris. Personne ne nous a appris à respirer. On apprend à respirer inconsciemment par nos parents. Alors, si votre mère avait une respiration très, très rapide et saccadée, c'est possible que vous ayez le même type de respiration. Si votre père avait une relation avec la respiration qui était une respiration qui était très lente et relâchée, vous aurez... Donc, d'apprendre à respirer avec tout son corps, tout son être. Si vous avez la chance d'avoir un nouveau-né près de vous, ou même un chat, on regarde un chat respirer, Marianne, et ça respire avec tout son être. Alors, d'apprendre à respirer, c'est d'apprendre à avancer dans la vie avec confiance. C'est tellement plus que l'on croit. Donc, la respiration est essentielle.
Je veux revenir au début de notre discussion, lorsque l'on parlait de l'inconfort, du malaise qui précède souvent le changement, la transformation. Parfois, on n'a pas envie de plonger là-dedans. Comment on peut cohabiter avec ce malaise-là?
Si vous avez déjà fait des rénovations à la maison ou juste repeindre une pièce, vous savez comment c'est bordélique et ça devient chaotique et tout est bouleversé, nos horaires, nos repères et tout ça. Et pendant quelques temps, on s'accommode de ça parce qu'on se dit le résultat. Il faut que je me concentre sur le résultat. Mon appartement sera beau, mon condo sera rénové, ma maison sera vraiment plus agréable à vivre. C'est la même chose. Mm-hmm. Ça prend de la patience, la persévérance, beaucoup de compassion envers soi-même et d'accepter de sortir de notre zone de confort. Et pendant un certain temps, ça se peut qu'on ne se reconnaisse pas ou plus, qu'on se dise « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça ne me ressemble pas » ou « on est gauche et maladroit ». C'est bon signe. C'est signe que vous êtes en train de vous réinventer. Persévérer, continuer, c'est temporaire. C'est vraiment temporaire et provisoire, l'inconfort.
Et ces fameux signes qui nous démontrent que l'on aurait peut-être besoin de se réinventer, parce que j'imagine qu'il y a des gens, et je le souhaite, des gens qui sont heureux dans toutes les facettes de leur vie, que ce soit au boulot, en amour, dans la famille, l'amitié. Et peut-être qu'ils n'ont pas ce besoin-là, mais est-ce qu'il y a des signaux que l'on peut identifier en nous qui nous disent « OK, j'ai peut-être besoin là d'une transformation ».
Même si ça va très, très bien dans votre vie présentement et que vous êtes à l'apogée du bonheur, rien ne vous empêche de vous demander « Quel talent dort encore en moi? Quelle habilité n'ai-je pas encore explorée? Est-ce que je suis allée au bout de ma créativité, au bout de ma capacité d'aimer ?» Au bout du pardon, qui est vraiment une façon extraordinaire de se réinventer. On sous-estime beaucoup le pardon dans une vie, comment ça peut créer de l'espace et nous ouvrir à de nouveaux horizons. Puis, si jamais vous êtes dans un moment difficile, au cœur d'un moment difficile, de vous demander « Comment pourrais-je voir cette situation différemment? Qu'est-ce que cette maladie, ce divorce, cette perte d'emploi, ces problèmes financiers viennent m'enseigner? »
L'éternelle insatisfaction.
Oui, mais de voir aussi que la vie participe constamment à notre évolution. Et s'il y a un obstacle sur votre chemin, ce n'est pas un frein. C'est peut-être que vous êtes à prendre un mauvais tournant. Donc, d'essayer de changer l'angle sur lequel on voit les choses. Comment puis-je voir cette personne différemment, cette personne avec qui j'ai un conflit? Est-ce possible de changer ma vision des choses? Et c'est souvent cela, c'est de changer notre regard. Moi, le but de mon livre, dans le fond, c'est de vous faire réaliser que chaque jour, ce n'est pas une nouvelle journée qui vous est donnée, mais vraiment, c'est une journée neuve pour vous réinventer.
Un conseil de votre plombier, d'ailleurs.
Voilà, exactement, pour que je remercie chaque jour.
Mais la vie... Mais si on sait peut-être reconnaître ces signaux-là, ces signes-là, la vie nous envoie ce dont on a besoin.
Tous les jours et à tous les moments. À vous qui nous écoutez présentement, regardez autour de vous, écoutez, regardez différemment, retombez en amour avec votre vie. Parfois, notre regard devient tellement poussiéreux, surtout avec les réseaux sociaux. Ouais. On voit des vies idéalisées sur Facebook, on voit sur Instagram... Et on se dit, ah, leur vie semble tellement plus excitante que la mienne. Moi, j'ai le même travail ou j'ai cet handicap ou j'ai cette impossibilité ou quoi que ce soit. Mais essayez de voir votre vie différemment. Il y a chaque jour des petits miracles. Juste le fait de respirer et de s'être réveillé ce matin, c'est quand même pas rien. Alors, de revenir à l'essentiel. Et je pense que la gratitude... est une façon fabuleuse de dire, ah, voilà, voici ce que j'ai. C'est peut-être pas la vie dont j'ai rêvé, que je voulais, mais voici ce que j'ai en ce moment. Et comment puis-je vraiment vivre cela pleinement?
En terminant, c'est quoi les écueils qui peuvent nous guetter dans ce processus-là, qui pourraient en fait, quand je parle d'écueils ou d'obstacles, qui pourraient nous faire rebrousser chemin sur cette route de la transformation et... auxquels on doit être bien vigilant pour tenter de les détourner.
Mm-hmm. Bien, de croire qu'une fois qu'on aura fait certains changements, notre vie sera rose à jamais. Ouais. Tout est appelé à changer. Et au contraire, je pense que ça développe en nous une force intérieure de savoir qu'il y aura d'autres vagues dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous pardonnez qu'à jamais, là, votre vie sera sereine. Nous sommes sur la Terre justement pour évoluer. Et c'est pour cela l'importance de rester aussi dans le moment présent. Puis de savoir que vous avez tout en vous. C'est déjà, tout est là en vous. Et si on est capable de outrepasser un peu nos peurs et notre façon de se comparer aux autres, d'être en compétition, on va trouver son unicité. Et là-dedans, il y a beaucoup de paix et de bonheur. Puis je le répète, c'est un processus. Il n'y a pas de recette magique dans mon livre. C'est pas une tisane que vous allez prendre puis que demain tout sera beau.
Et ça demande un investissement personnel et beaucoup d'amour envers soi-même. Oui. Ce qu'on oublie parfois, en fait souvent.
Oui, absolument. Puis on s'investit dans des activités sportives, on s'investit au boulot, on s'investit dans plein de choses. Vous pouvez investir en vous. Vous valez la peine. Peu importe votre âge, votre état de santé, peu importe les circonstances de votre vie, vous pouvez en ce moment même vous réinventer.
Nicole Bordelot, ces années sont marquées beaucoup par du cynisme. Et on entend souvent dire « Ah, on ne peut pas vraiment changer. On est ce que l'on est. Peut-être qu'on peut un petit peu bouger, mais vous êtes la preuve de ce changement-là. Et c'est pour ça que vous êtes si inspirante. Et j'aime entendre et croire que l'on peut, du moins, se transformer et se réinventer. Oui. Ça fait du bien, ça.
Bien, merci, parce que tout autour de nous, la nature... Tout ce qui nous entoure se réinvente constamment et on fait partie de cet environnement-là. Donc, c'est certain que nous aussi, nous sommes venus ici pour se réinventer.
Vous êtes cofondatrice de Yogamonde, www.yogamonde.com, auteure notamment de ce troisième livre, L'art de se réinventer. C'est édité aux Éditions de l'Homme. Également, vous accompagnez les gens dans la méditation et dans leur transformation. Merci beaucoup, Nicole
Bordelot. Merci beaucoup. Namasté.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Anne Perrault, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette. Merci de votre invitation.
Merci d'être là. Vous êtes scientifique du domaine de la santé, fondatrice des ateliers Plaisir et Saine Alimentation. En plus d'être co-auteur de ce livre, Je cuisine avec des images. Pourquoi avoir eu, on le sait là, quand on lit un petit peu les statistiques, c'est assez inquiétant, c'est assez désolant. Au Québec, 53 % de la population ont de la difficulté. En fait, ont pas un taux de lecture suffisant pour s'épanouir, pour fonctionner adéquatement dans la société. 53 % c'est énorme. Est-ce que ça vient un petit peu de là, ce désir de créer un livre avec plus d'images que de mots?
Pas tout à fait. Je cuisine avec des images a été conçu dès le départ pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère. Mais cependant, par extension, notre livre s'adresse à tous les faibles lecteurs, aussi aux débutants en cuisine et puis aux parents avec leurs tout-petits, de sorte que tout le monde puisse mettre la main à la pâte.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le livre a été testé avec des gens qui ont une déficience intellectuelle. C'est un petit peu comme ça que vous l'avez construit, le livre.
Tout à fait, parce qu'on voulait réellement répondre à leurs besoins. Alors, le livre a été testé, toutes les recettes ont été testées en cuisine, avec la collaboration de 5 personnes qui ont une déficience intellectuelle, 2 femmes et 3 hommes. Les hommes aiment cuisiner autant que les femmes. Ouais. Et alors, chaque recette a été testée. J'ai fait le livre avec la co-auteure Anne Mitchell. Anne Mitchell est une graphiste de formation qui détient aussi un diplôme professionnel en cuisine. Alors, c'est grâce à sa collaboration que le livre a pu être créé, parce qu'après chaque test en cuisine, Anne et moi, nous mettions d'accord pour faire des modifications à la recette. Alors, il s'est agi naturellement d'un processus itératif durant lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications, surtout aux premières recettes. Par exemple, la toute première recette qui était celle de l'omelette, nous sommes partis de zéro pour cette recette-là, puis il y a eu 12 versions différentes à la recette. Et puis, alors, ça veut dire qu'on a cuisiné beaucoup d'omelettes puis qu'on en a mangé beaucoup
aussi. Vous en avez cassé des œufs.
On en a cassé des œufs.
C'est quoi les besoins des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle quand il est question de cuisiner?
Leurs besoins, nous avons identifié un grand défi quand nous avons fait le livre, c'est celui des mesures. Des mesures et puis des indications pour le degré de chaleur des boutons de la cuisinière. Alors, les mesures pour les cuillères, si on pense comment ces cuillères-là sont faites, il y a deux systèmes de mesures, le métrique et l'américain, puis l'américain est en anglais. Alors, pour une personne qui a une déficience intellectuelle, c'est vraiment un défi. Nous avons simplifié à l'aide d'autocollants qu'on appose sur les cuillères, et puis on a vraiment simplifié. Alors, on met soupe, thé, 1 sur 2, 1 sur 4. Alors, 1 sur 2, 1 sur 4, c'est naturellement la demi et le quart de cuillère à thé. Mais alors maintenant, pour n'importe qui, lecteur ou non, c'est facile d'identifier ces cuillères. Puis ensuite, on a fait des autocollants pour les boutons des cuisinières. Puis ensuite, un autocollant pour la tasse à mesurer. Ou autour de la tasse, il y a quand même 4 systèmes de mesure très différents.
Et lorsqu'on feuillette le livre « Je cuisine avec des images », on se rend compte que, justement, il y a beaucoup d'images. Tous les outils culinaires sont illustrés. Ça, c'était un besoin aussi que vous avez identifié.
Tout à fait. Parce que suivre une recette en lisant un texte puis en cuisinant, c'est un grand, grand défi pour une personne qui a une déficience intellectuelle. Moi, j'ai essayé plusieurs formats de recettes et puis à chaque fois, on se prenait la tête entre les mains. Là. Les cuisiniers avec une déficience qui essayaient de les utiliser, c'était un casse-tête pour eux. Alors, l'image, disons, donne une instruction claire de l'étape à faire. Alors, chaque étape du livre est illustrée par une image. Ce qui fait qu'il y a quand même plusieurs illustrations pour chaque recette. La recette la plus courte, celle du brocoli au micro-ondes, elle a 10 illustrations. Puis la plus longue, la sauce à spaghetti, en a 38. Alors, on réalise pas toutes les étapes quand on cuisine, mais quand on veut les représenter, il faut vraiment décortiquer et puis mettre deux actions sur la même image. On a réalisé que la personne qui a une déficience intellectuelle en oublie l'une des deux.
Ouais, je l'ai justement sous les yeux, la sauce à spaghetti, Anne Perrault, et puis on voit vraiment, on voit la carotte se faire éplucher, on la voit se faire couper, de quelle façon la couper, l'oignon également, l'eau chaude, l'origan, la petite bouteille d'origan, tout ça, c'est très, très bien détaillé. Et tout ça, Anne, est bien sûr dans le but ultime de favoriser l'autonomie de ces gens-là. C'était ça, votre souhait?
C'était ça. C'était améliorer l'autonomie alimentaire. Alors, améliorer la qualité de l'alimentation, alimenter l'indépendance par rapport à la cuisine toute faite, au fast-food. C'est des cuisines qui apportent beaucoup de sel, beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Selon les aliments, et puis aussi qui sont pauvres en fruits et en légumes, pauvres en minéraux, pauvres en fibres. Alors, c'est ce type d'alimentation-là favorise les maladies chroniques, en particulier l'hypertension et le diabète, qui sont des conditions très sérieuses pour la santé.
Et donc, il y a des bénéfices pour la santé aussi.
Il y a d'énormes bénéfices pour la santé. Et puis, il y a aussi des bénéfices du point de vue plaisir, parce que bien s'alimenter, c'est un plaisir. Et puis, il y a des bénéfices sociaux, parce qu'on peut partager ce qu'on a cuisiné. On s'enrichit soi-même en développant ses habiletés manuelles.
Des bénéfices financiers aussi. Cuisiner coûte moins cher qu'aller manger au restaurant.
Tout à fait. Tout à fait. Mais encore faut-il savoir gérer son frigo, gérer sa liste d'épicerie. Et puis, c'est des choses qui demandent à être encore travaillées. Il y a des groupes de recherche, par exemple, le groupe du Dr Langevin, l'Université de Montréal, qui s'intéresse à ça. Puis je sais qu'à l'Université de Trois-Rivières aussi. Et puis, moi, j'espère éventuellement pouvoir collaborer à ces groupes de recherche-là en tant que personne ressource, grâce aux observations que j'ai faites depuis 6 ans, là, depuis que je fais des ateliers. En fait, depuis 9 ans, depuis que je fais des ateliers auprès de personnes qui ont une déficience intellectuelle.
Ben, l'appel est lancé, Anne Perrault. En terminant, je veux revenir sur ces ateliers plaisir et saine alimentation dont vous êtes la fondatrice. C'est quoi les services que vous offrez à travers ces ateliers-là?
Ces services que j'offre, en fait, c'est des services qui sont bénévoles. J'offre des services d'accompagnement à l'occasion dans des groupes scolaires. Ensuite, aux cuisines collectives de mon quartier Beaufaction de Rosemont, j'ai été l'initiatrice avec le responsable Xavier Lewis de cuisine collective à Beaufaction, qui était une première là-bas. Et puis aussi, je suis associée à un projet de recherche à l'Université McGill, un projet de recherche qui va avoir lieu à l'École Summit. C'est une école pour adolescents qui ont une déficience intellectuelle. Ils vont utiliser 6 recettes du livre dans le cours dans le cadre de leur curriculum. Et il y a des étudiants finissant la maîtrise en ergothérapie de McGill qui ont un projet de recherche basé sur le livre. Alors ça, c'est vraiment excitant. Ça va faire connaître le livre dans le milieu anglophone. Et puis aussi, je pense que ça va nous aider à faire évoluer les recettes et puis probablement à préparer d'autres, parce qu'Anne Mitchell et moi, nous comptons poursuivre notre collaboration et puis profiter du langage visuel que nous avons développé là, pour faire des nouvelles recettes.
Et pour mettre la main sur Je cuisine avec des images, est-ce qu'on le retrouve en librairie?
Il est disponible en librairie, d'habitude sur commande, parce que les libraires ne le tiennent pas nécessairement en magasin. Par contre, il est disponible sur commande dans n'importe quelle librairie. Il est disponible dans les bibliothèques et le coût est vraiment abordable à $24.95 la qualité de graphique et puis la qualité esthétique du livre. Nous avons eu des bonnes fées, une illustratrice de talent, Louise Martel, une photographe de talent, et puis Hélène Laurendeau, qui est communicatrice et nutritionniste, qui a écrit la préface. Hélène Laurendeau, elle est bien connue des médias parce qu'elle est une collaboratrice...
De Ricardo,
dont nous avons adapté une recette, la recette de soupe hamburger.
Oui. Alors, 19 recettes, on le rappelle, qui sont testées sur des personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles. On parle de chili, de sauce à spaghetti, de côtelettes de pain, de brocoli, vapeur, four micro-ondes, mais ça s'adresse aussi aux familles, aux enfants, si on veut les initier à la cuisine et s'ils veulent cuisiner avec leurs grands-parents, ça pourrait être chouette aussi. Eh bien, c'est une très, très belle initiative, Anne Perrault. Je rappelle, vous êtes scientifique du domaine de la santé, fondatrice des ateliers Plaisir et saine alimentation et co-auteure de ce livre de cuisine, Je cuisine avec des images. C'est publié chez Carte Blanche. Et on laisse en terminant votre site web lapsa.ca.
Et puis notre page Facebook, Je cuisine avec des images.
Merci Anne.
Merci.
Et puis nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. Bye bye.